Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Livres et Amis. Dominique n'est pas avec nous, mais il ne tardera pas à revenir. Et donc c'est Françoise et Odile qui vous remercient de votre fidélité, comme on dit. Là, nous allons vous présenter et surtout lire beaucoup, parce que ça vaut bien le coup d'être lu et de rester dans les paroles des gens. Il s'agit d'un livre consacré à la France et à l'Algérie, aux relations entre les gens et surtout à l'évolution de l'Algérie, tout sous titre Résilience et réconciliation en Méditerranée. Et les auteurs qui dialoguent, c'est Boris Cyrulnik et Boualem Samsal. Les éditions Odile Jacob les ont rassemblées. Qui est Boris Cyrulnik, neuropsychiatre? Il a écrit de nombreux ouvrages, il est bien connu. Et ils ont tous été ces ouvrages d'immense succès. On connaît son succès à cause de l'idée de résilience qui a vraiment fait du chou gras en ce moment et qui continue d'en faire. On parle de résilience aussi pour le printemps arabe d'Algérie. Et quant à Boualem Samsal, c'est un écrivain essayiste. Il est algérien, il est né en 1949. Il a reçu de nombreux prix littéraires, dont le grand prix du roman de l'Académie française. Il vit près d'Alger, il est actuellement en France. Vous entendrez parler de lui avec plus de détails, parce qu'il se plaît au passage à dire un peu qui il est, et on se demande souvent qui sont les écrivains qui parlent, surtout qui parlent d'actualité. Et c'est donc un plaisir que de vous le présenter. Alors, le livre se présente comme un grand dialogue entre Boris Cyrulnik et Boualem Samsal. On voit que chacun a sa façon de voir les choses, ils ne sont pas opposés, mais ce n'est pas quand même la même vision du monde. Ils ont fait connaissance dans le milieu de la France, dans un colloque, et ils ont à ce moment-là décidé de faire un livre ensemble. Mais comme vous l'entendrez, c'est difficile de dire qui parle, parce qu'ils parlent vraiment de la même façon et d'une même voix. Et n'empêche, moi j'ai remarqué que Boris Cyrulnik restait avec de grandes notions fondamentales, par exemple la société fondée sur la violence, le fameux livre de René Girard, visiblement l'a beaucoup impressionné, sur le meurtre fondateur des civilisations. Et puis aussi, Boualem Samsal, lui, est beaucoup plus dans l'actualité et son regard porte sur l'évolution des choses. Il n'est pas dans les grands principes sur l'évolution des consciences, l'évolution des mentalités. Il est à chercher ce qu'il y a vraiment de nouveau. Et alors que Cyrulnik, deuxième différence, est très optimiste, Boualem Samsal, lui, a beaucoup d'amertume quant à l'avenir de l'humanité et l'avenir même de son pays. Il faut dire que, comme on verra, ça n'a pas toujours été pour lui un tapis de roses que son chemin en Algérie. Alors, il va commencer par nous faire une présentation de l'histoire de l'Algérie à l'époque où de l'Irak, c'est important de revenir quand même à les sources historiques. Il faut dire que pour lui, l'histoire de l'Algérie, oui, c'est là. Vas-y.
Quand en 1916, les accords Sykes-Picot ont officialisé la fin de l'Empire ottoman, les décideurs politiques n'ont pas pensé à la psychologie des populations et encore moins à celle des individus. Ils ont tracé des lignes sur une carte pour faire un partage équitable. Aux Français, un mandat sur le Liban et la Syrie. Aux Anglais, la mission de prendre en charge la Palestine et l'Irak. Les ambitions de la Grande Syrie s'effondrent avec la perte du Liban, de la Jordanie et de la Palestine. La France modernise le Liban, facilite son indépendance et respecte les Libanais, ce qui déclenche le tissage d'un lien affectif, culturel et commercial entre les deux pays. Le lien s'est moins bien tissé avec la Syrie qui a perdu ses rêves de grandeur. Ce ressentiment peut-il expliquer l'engagement de la Syrie auprès du gouvernement de Vichy et ses transactions avec Darlan qui collaborait avec l'Allemagne nazie ? La Syrie a donc affronté les forces françaises libres alors que le Liban se rapprochait de De Gaulle. Chacun de ces mouvements politiques a mis en lumière des héros différents. Et nous revenons ici à une thématique centrale de notre échange, celle des héros. Ainsi, l'Algérie, humiliée par l'insupportable mépris des premiers colonisateurs au XIXe siècle et la violence de l'armée française à partir de 1954, a-t-elle choisi d'héroïser de belles personnes comme Abdelkader ou de belles gueules comme Che Guevara? Il n'en va pas de même pour les Algériens arrivés ou nés en France, qui se sont plutôt identifiés à des héros revanchards ou nihilistes, dont la pire image est celle de Mohamed Merah. Ce franco-algérien échoue partout, famille dysfonctionnelle, école ratée, bande de copains mal socialisés, engagement dans l'armée française refusé. Il se donne des victoires fugaces grâce à la petite délinquance, jusqu'au jour où il découvre le salafisme dans sa propre famille. Dès lors, tout s'éclaire et sa vie prend sens. Il se prépare à commettre un attentat. On le prépare. En 2012, il passe à l'acte, tue 7 personnes, dont 3 soldats français musulmans, un professeur et 3 enfants d'une école juive, dont il filme l'agonie. La couverture médiatique est faramineuse. Toutes les télés, à chaque journal, tous les journaux passent les séquences commentant sa mort, courageuse, quand il a affronté un bataillon entier de gendarmes. Sa mère est enregistrée et elle dit « Mon fils a mis la France à genoux, je suis fière de lui. » Dans la semaine qui a suivi la mort héroïque de Merah, on a dénombré 80 attentats antisémites en France. Quand un héros du genre de celui-ci meurt, il devient un modèle exaltant pour d'autres gosses en difficulté qui l'admirent et s'identifient à lui. Cette radicalisation entraîne la haine de tout ce qui n'est pas musulman. Dans cette intention totalitaire, il n'y a pas d'autre vérité que celle du chef. Celui qui s'y oppose est un blasphémateur qui mérite la mort parce qu'il agresse mon Dieu. Les soldats musulmans tués parce qu'ils défendaient des Français sont considérés comme des traîtres. Et la noble mère de l'un d'eux, Madame Latifa Ibn Ziaten, est actuellement menacée de mort parce que son fils a défendu des enfants juifs. C'est vraiment dangereux de vouloir la paix.
Et voilà comment Maurice Cyrulnik explique les phénomènes de radicalisation. On voit que ce sont des explications fondamentalement anthropologiques et même psychologiques. À voir aussi, hein, à l'époque donc, où on se souvient encore de Mohamed Merah et où récemment le professeur Samuel Paty s'est vu décapité, ces phrases-là nous frappent énormément. Alors, on va voir, page 228, comment se font les choses au niveau de l'Algérie.
Boualem Sansal. Les manipulations sont identiques dans tous les camps. La ficelle est toujours grosse, mais l'essentiel est d'arriver à ses fins et de convaincre le manipulé qu'il ne l'est pas et que, hors le manipulateur, il n'est point de salut. Mais l'impétrant, qui vient parler de vérité, de lutte contre la corruption, de mieux-être du peuple dans une vraie démocratie, risque gros. Les manipulateurs l'abattront avant qu'ils commencent à œuvrer. L'Algérie compte un cas d'espèce en la matière. Je veux parler de Mohamed Boudiaf. Cet homme a eu une vie extraordinaire. Il a vécu le pire, mais il a réussi à rester toute sa vie et jusqu'à sa mort un homme propre, courageux, digne, mais aussi un fin stratège et un bon tacticien, ce qui lui a valu de réussir dans tout ce qu'il a entrepris au cours de sa vie. Après quelques études secondaires, il est fonctionnaire dans sa ville, Msila, puis soldat dans l'armée française durant la Seconde Guerre mondiale. Il fait la campagne d'Italie et participe à la légendaire bataille de Monte Cassino, dont il revient avec le grade d'adjudant. Après les massacres de Sétif en mai 1945, il rejoint le PPA de Messaliadj, puis participe à la création de l'OS, l'organisation secrète, bras armé secret du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD, successeur du PPA. Après des années passées à militer dans la clandestinité, ce qui lui vaut de passer quelque temps en prison, et constatant que les dirigeants du parti répugnent à engager le combat armé contre le colonisateur français, il rassemble 5 amis qu'il a connus dans l'armée en Italie et dans ses activités de militant, crée un nouveau parti, le Front de Libération Nationale, FLN. Aussitôt, le 1er novembre 1954, ils engagent l'action armée contre la France. On peut dire que Boudiaf est le père de la révolution algérienne et de l'indépendance. En 1962, arrivé triomphalement à Alger, il est très rapidement exclu par ses pairs car il refuse que l'Algérie soit gouvernée par une junte militaire. Il voulait qu'elle le soit par des civils dans un cadre multipartite. Il est arrêté, condamné à mort, mais il réussit à s'évader et se réfugie au Maroc, où il formera un parti d'opposition à la junte militaire d'Alger. En 1989, à la mort du président Boumédienne, tout en prenant acte que le peuple était très affecté par la disparition de ce président, il cesse toute activité politique, ne voulant pas continuer à s'opposer à un régime que les Algériens avaient fini par adopter. Il n'y a pas meilleure légitimité pour un tyran que l'affection et le respect que le peuple lui témoigne. L'histoire continue. Le peuple finit par prendre conscience qu'aimer son bourreau n'est pas une belle affaire et entreprend de le contester et de réclamer la liberté et la démocratie. Ce mouvement, à vrai dire très désordonné et non encadré par une élite sincère, bascule dans la violence et c'est la guerre civile de la décennie 1990. Acculé et menacé de finir devant le Tribunal pénal international, le TPI, pour des crimes de base qu'ils ont commis, les généraux algériens en appellent au vieux Boudiaf, il a alors 73 ans, pour les sauver et sauver le pays de cette guerre civile, qui fera plus de 250 000 morts, d'énormes dégâts matériels et engendrera des traumatismes colossaux. Boudiaf accepte, rentre à Alger, prend la tête d'un haut comité d'État pour pallier la vacance de la présidence. En quelques semaines, il parcourt l'Algérie, découvre un pays en ruine, un peuple désespéré qui ne le connaissait pas, car son nom et son rôle avaient été effacés de l'histoire officielle. Une administration corrompue, des partis croupions et une société civile impotente. Il découvre l'incurie de ceux qui tenaient les rênes de l'État, qu'il a appelés les décideurs. En homme d'expérience, il a vite fait le diagnostic. Il le résume en une phrase. Le problème du pays, ce sont ses généraux et son drame, et que son école est sinistrée. Il a osé le dire haut et fort, et cela lui a coûté la vie.
Voilà, on est heureux d'entendre parler de Boudiaf. Pour nous, c'était, enfin pour moi, c'était quelqu'un qui était apparu comme un homme propre, en qui on faisait confiance, et qui était trop tôt assassiné. Et en fait on voit tout le parcours depuis le MNA, hein, de Messaliadj, qu'on connaissait pas parce qu'on ne parlait que du FLN. Les autres c'était des gens qui n'avaient pas été assez combatifs avec les Français, et là c'est une très bonne chose dans ce livre qu'on fasse ressortir de belles figures. Et on va maintenant en venir. Après cette évolution, vous voyez qu'il parle de Boudiaf et au fur et à mesure, il dit que cela, l'histoire continue et on en vient à l'élection de le nom du président Bouteflika. Et il dit, il faut remarquer cette formule extraordinaire, que c'est l'avantage des tyrans que de se faire aimer par le peuple. Et Cyrulnik va parler maintenant pour montrer quelle est l'attitude de la deuxième génération, notamment qui se voit au moment des matchs, et le paradoxe de ces jeunes.
Oui. Je dois dire d'abord un deuxième paragraphe de Boudiaf, de Sansal, de Boualem Sansal. L'école était prise entre le régime FLN armé, qui en avait fait un centre d'endoctrinement, et les islamistes qui avaient réussi à l'infiltrer et en faire un foyer d'islamisation et de radicalisation. Elle fabriquait à la chaîne des chômeurs incultes, des nationalistes bornés et des islamistes fanatiques. Parce que Boudiaf l'avait compris, il fut assassiné 6 mois après son installation à la tête de l'État, par cela même qui s'était rendu au Maroc pour le supplier de venir sauver le pays. En vérité, il souhaitait qu'il les sauve, eux, du TPI. Depuis, le problème est le suivant. Comment sauver l'école pour sauver la République et le peuple? À ce jour, il n'y a pas le moindre début de réponse à la question. En vérité, personne ne la pose, car en l'état actuel, il n'existe aucun moyen d'entreprendre les travaux d'Hercule pour le sauvetage de l'école. C'est mission impossible. Le système mis en place par le FLN et les islamistes est si profondément ancré dans le pays qu'il faudrait une nouvelle révolution. Le même constat a été fait pour l'université. L'arabisation de l'enseignement et l'enseignement à forte dose de la religion ont fait que l'université ressemble à une mosquée qui, en marge de ses activités cultuelles, enseigne un peu de ceci, un peu de cela. C'est pour cette raison que beaucoup de parents se saignent aux quatre veines pour scolariser leurs enfants à l'étranger ou les inscrire dans les centres français d'enseignement par correspondance. L'émigration des Algériens en Europe doit être vue sous cet angle. Elle ne vise pas seulement la recherche d'un travail, d'un mieux vivre ailleurs. Elle est la planche de salut d'un peuple qui a vu son pays et son école sombrer par le fond. Maintenant, la réponse de Boris Cyrulnik.
On voit le pessimisme profond, hein. Voilà, et Boris Cyrulnik dit que c'est terrifiant ce qu'il entend dire.
Boris Cyrulnik. Ce que tu dis est proprement terrifiant. À l'époque de l'indépendance, les Algériens croyaient que le malheur venait de l'étranger, du colon qui avait pillé le pays et écrasé ses habitants. Les pieds noirs ne se sentaient pas étrangers et de moins en moins colons. Eux-mêmes, issus d'un petit peuple, ils se sentaient de plus en plus proches des Arabes. Les colons qui faisaient suer le burnous représentaient une minorité agissante, même s'ils étaient critiqués. Suer le burnous, entre guillemets. La plupart des Européens se sentaient Algériens de type particulier. Un processus égalitaire était enclenché, mais encore loin d'être réalisé. Peut-être aurait-il accepté de négocier plus rapidement si la radicalisation du FLN et de l'OAS n'avait bloqué cette évolution. Il fallait combattre et non plus négocier. C'est une constante dans l'histoire de bien des pays. Un groupe de résistance se met en place en secret quand il n'est plus possible de parler avec les agresseurs. Mais ce groupe devient actif et prend la parole quand l'affaiblissement de l'oppresseur lui fait espérer la victoire. La Révolution française a explosé quand Louis XVI a préparé des réformes généreuses. La Révolution russe a éclaté quand un nombre minuscule de marins surexploités a déclenché un processus qui a effondré le régime parce que le tsar Nicolas II ne pouvait plus s'appuyer sur les nobles et les grands bourgeois qui avaient fait sa force. Quand un régime chancelant est moins oppresseur, il libère la force des opprimés. Peut-on appliquer cette idée aux pieds noirs qui critiquaient la colonisation et espéraient une évolution moins injuste? Les Algériens indigènes se solidarisaient contre les étrangers, ces Français oppresseurs, sans tenir compte du fait que certains d'entre eux vivaient sur cette terre et avaient construit le pays depuis plus de 100 ans. Quand les révolutionnaires ont pris le pouvoir, ils n'ont plus été solidarisés par la lutte contre ces étrangers qui se croyaient Algériens. Les conflits internes se sont aggravés jusqu'à la tragédie des années noires, où ceux qui voulaient une Algérie radicalement religieuse se sont entretués avec ceux qui rêvaient d'une Algérie laïque et démocratique. À partir de 1991, l'ennemi, ce n'était plus le colon, c'était le voisin, le facteur, le commerçant ou l'instituteur. Le changement d'ennemi semble habituel après chaque révolution, mais il y a toujours un moment où le processus s'éteint et où une nouvelle manière de vivre ensemble s'organise. La France a établi de nouvelles relations culturelles et commerciales avec les Anglais, nos ennemis héréditaires. avec les Espagnols et les Italiens si souvent combattue, et surtout avec les Allemands contre lesquels elle a été en guerre pendant presque un siècle, entre 1870 et 1945. Il y a quelques années, un nombre non négligeable de Français se crispait quand ils entendaient parler allemand, et ils n'auraient pas supporté d'acheter un produit « Bosch », entre guillemets. Quand j'étais enfant, j'entendais encore parler de la perfide Albion. Les Espagnols, mal reçus en France, enfermés dans des camps, ont privilégié les liens avec l'Allemagne. Il y a eu pendant plusieurs générations des ratonnades mortelles contre les macaronis italiens.
Voilà comment on passe de l'histoire de l'Algérie à une réflexion sur les révolutions. Boris Cyrulnik a son idée sur la façon dont la révolution se passe. En tout cas, c'est un éclairage qui est intéressant, qui nous est donné là. Il y a, on va passer à quelque chose d'un peu plus détendu avec une petite parenthèse. C'est la page 243, « La vie au Sahara ».
Ceux qui ont fait l'expérience de la vie au Sahara en deviennent accros. Ils ne peuvent plus s'imaginer vivre au nord, dans la promiscuité et la fébrilité des villes ou dans la morne routine des villages. Pour moi, l'affaire n'a duré qu'un trimestre. Comme je l'ai dit précédemment, le 24 février 1971, le président Boumédienne annonce la nationalisation des sociétés pétrolières étrangères et la dévolution de leurs actifs à la compagnie nationale Sonatrach. À la réaction française postant quelques navires de guerre en face d'Alger, Boumédienne bombe le torse et menace tout en mettant en branle un scénario classique. La nouvelle équipe débarque en trombe et chasse la précédente sans ménagement aucun. Je n'avais pas fini de m'installer dans ma base vie à In Amenas que je me suis retrouvée au chômage et avant même d'avoir réellement commencé à bosser. Remontée au nord, j'ai hésité entre rechercher un emploi à l'abri des surprises ou suivre la CREPS qui offrait à ses ingénieurs une affectation sur ses bases en Angola ou en mer du Nord. J'ai refusé cette aventure au bout du monde et j'ai rejoint un institut que le gouvernement venait de créer à Boumerdès, à 45 km d'Alger, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, et du Bureau International du Travail, BIT, qui avait pour mission de former des managers et de fournir aux entreprises publiques algériennes une expertise en gestion et en management. Là encore, avant d'apprendre ce qu'est le consulting et de réaliser ma première mission de conseil aux côtés d'un senior du BIT, j'ai été appelée sous les drapeaux. Deux années qui ont failli mal se terminer. En 1973, alors que la quille approchait, le président Boumédienne imposa à notre promotion un bonus de 3 mois pour nous donner une formation spéciale. Laquelle ? Nous en saurons la nature de sa bouche même. Le soir du 10 octobre, à minuit, il nous réunit dans une caserne de la banlieue d'Alger pour nous annoncer qu'il nous envoyait en Égypte renforcer les escadrons algériens qui combattaient héroïquement Israël. Il nous promit la gloire et de substantiels avantages à notre retour de la guerre. Guerre du Ramadan pour les Arabes, guerre du Kippour pour les Israéliens. Elle avait commencé le 6 octobre sur la ligne Barlev le long du canal de Suez. La rapidité avec laquelle Israël a défait en 18 jours la coalition arabe nous a sauvés. Notre mission a été annulée alors que les avions cargo affrétés pour nous emmener en Égypte erraient en train de chauffer leurs turbos sur la base militaire de Blida. Je crois me souvenir que quelques-uns dont j'étais peut-être ont chaudement applaudi la victoire d'Israël. Elle nous sauvait la vie. Nous étions trop jeunes pour mourir, si loin de notre pays et pour une cause qui était la nôtre, mais au deuxième degré. Nous avions hâte de revenir à la vie civile et de nous battre pour le développement de notre pays. Nous avions fait des études pour cela.
On voit le cheminement de cet homme qui était une belle éducation, qui est un cadre, ingénieur, et qui n'arrive pas à trouver sa place. On sent quelque chose de très solide là-dedans. Après, dans ce ballottement, c'est qu'il aime son pays. Il refuse de partir loin en Angola parce qu'il veut rester chez lui, participer au développement du pays. Il y avait à ce moment-là un grand amour, surtout avec Ben Bella, un grand amour de l'Algérie et un grand souci de développer l'Algérie. Et malheureusement, ça a été cassé par une gestion très autoritaire. Alors, Boumediene était certainement un très grand homme d'État, mais il n'empêche que son autoritarisme et cette espèce de violence qu'il a envers ces jeunes ingénieurs en disant « Non, non, vous allez encore rester 2 heures sur les drapeaux, il faut que vous partiez à la guerre. » Il les prend pour qui ? Pour de la chair à canon. Voilà comment, l'évocation rapide du Sahara et de sa grande séduction, eh bien, on revient à la vie ballottée de Bolem Sensal, qui montre bien quel est le destin de quelqu'un qui, pourtant, en Algérie, avait tout ce qu'il fallait pour réussir, pour rendre service à son pays, qui n'y arrive pas. Enfin, on va passer à une question qui est celle du rôle de l'intellectuel. Là, cette partie du livre qui s'appelle « L'avenir du Irak » pose des questions sur la radicalisation, et un des thèmes qui revient, c'est le rôle des intellectuels, le rôle, ils disent, discret des intellectuels pendant les fameuses années sanglantes, dont on parle très peu. Hein. C'est un avantage de ce livre, de ne pas faire l'impasse sur ces années-là.
Quelle page ?
Oh, vous oubliez. Page 243. Et je vois un 241.
Je crois que j'ai déjà lu ça.
Qui s'est un peu gribouillé. 241.
Ah oui, oui. Les dizaines d'intellectuels que l'Algérie comptait étaient pour la plupart proches du FLN. Certains en étaient des militants actifs ou des combattants de ces maquis. Ils ne jouèrent aucun rôle dans la définition de la politique nationale et ne furent d'ailleurs jamais sollicités pour ce faire, sinon pour saluer les belles décisions prises par la chefferie. Des esprits libres comme les intellectuels Kateb Yassine, Maleg Haddad, Mahfoud Benoun ou Mohamed Harkoun se sont vite heurtés à la pensée unique et à la police. La plupart d'entre eux durent s'exiler afin de poursuivre leurs travaux, en publier les résultats et les présenter librement au public. Depuis, l'Algérie a formé dans ses universités, ses écoles et ses 106 instituts, et dans les universités étrangères, un grand nombre de cadres et d'intellectuels, souvent de très haut niveau. Mais comme leurs aînés, ils furent enrôlés et caporalisés par le système ou bien durent s'exiler. Les autres furent livrés au chômage. C'est ainsi que, à l'instar de la plupart des pays nouvellement indépendants, non démocratiquement gouvernés, l'Algérie compte plus de cadres et d'intellectuels à l'étranger que sur son territoire. La fuite des cerveaux est la cause principale de l'état calamiteux dans lequel se trouvent ces pays.
Voilà. Il s'agit de l'influence des intellectuels avant la décennie noire, mais maintenant, c'est toujours Bolem Sensal qui parle, l'histoire d'Algérie pendant la décennie noire.
يمّا كتري من داوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يمّا ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعب الشعب يلعب عشرة والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويمركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 وينو مازل مش بعتوش وبربي هاد المرة وينو ناضي ما تفوتوش الشعب ليبال يا
بلادي بكا وكدموع ميساجي قال مسؤوليني ونا مارك رانا منكم هادو عشرين وحنا صابرين
يا زاير في البيت راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلبي انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش مخسر
Nous continuons l'histoire de l'Algérie et aussi celle de Boualem Sansal, interviewé par Boris Cyrulnik, ou plutôt non, dialoguant avec Boris Cyrulnik. Et là, cet ingénieur qui aurait dû avoir une très belle carrière, il a eu une belle carrière, mais il a eu surtout bien des déceptions, ce dont il nous fait part maintenant.
Après avoir longtemps enseigné les techniques de gestion et de management, il était temps de confronter mes connaissances à la réalité. En 1986, j'ai pris la direction d'une société nationale de services informatiques. Grosse surprise, la théorie et la pratique s'opposaient violemment sur le terrain. Celui-ci était miné par l'idéologie, la corruption, la bureaucratie, les pénuries, l'impérialisme des tutelles officielles et officieuses. Au terme de ces multiples aventures, j'allais découvrir que dans mon pays, on ne se battait pas pour produire de la richesse, mais pour prendre sa part de la rente pétrolière. Avec une nuance de taille, dans une société ultra surveillée, la peur empêche toute initiative individuelle et condamne tout projet commun à la faillite. Voilà une longue digression qui te permet de comprendre le silence des intellectuels. Et ça n'est pas terminé. En 1992, Alors que le bras de fer avec les islamistes se transformait en guerre civile, j'ai jeté l'éponge et après un bref passage comme chef économiste au Conseil économique et social, j'ai rejoint la haute administration centrale comme conseiller auprès du ministre du Commerce, puis en 1995 comme directeur général de l'industrie au ministère de l'Industrie, Boris Cyrulnik. Je crois que c'est à cette époque que tu as réagi en portant la plume dans la plaie, comme le formulait l'écrivain et journaliste d'investigation que fut Albert Londres.
Et voilà, oui, on va voir ce qui se passe du côté du pouvoir. En tout cas, ce qu'on voit, c'est l'exil des cerveaux, là, parce que bel et bien, il est parti. Boris Cyrulnik, n'insiste pas là-dessus, vous avez quitté votre pays, et on le comprend, hein. En tout cas, il s'est trouvé une jolie place en France, Conseil économique et social. Et voyez maintenant comment ça se passe en Algérie.
Ne pas gagner la guerre, mais la prolonger indéfiniment. Boualem Sansal. C'est vrai. En 1996, alors que la guerre civile atteignait son paroxysme, j'ai réagi en entamant l'écriture d'un roman dans lequel j'ai tenté de montrer que cet affrontement était une guerre interne au régime, ancrée dans l'histoire du mouvement nationaliste, entre son aile civile traditionnaliste gagnée par l'islamisme radical et son aile militaire affairiste et compradore qui s'était appropriée la rente pétrolière et l'avait dilapidée. C'était la panique générale. La recette pétrolière, qui avait chuté de moitié en raison d'une baisse concomitante de la production et du prix du baril, ne pouvait même plus assurer le service de sa dette extérieure. Voilà qui, en avril 1993, avait obligé le gouvernement à se déclarer en cessation de paiement et à en appeler au FMI, qui lui imposa un programme d'austérité et de restructuration d'une extraordinaire dureté. En moins de 3 années, plus de 1 500 entreprises publiques furent liquidées, plus de 500 000 travailleurs licenciés. Dans les autres secteurs, et notamment dans les services publics, ce fut l'hécatombe. De quelque part, la guerre civile a été utilisée, provoquée, pour faire passer des réformes extrêmement brutales qui ont jeté le peuple dans une misère noire et mis l'Algérie sur le chemin de l'ultralibéralisme. Dans son remarquable essai « The Shock Doctrine », Naomi Klein décrit d'une manière très documentée les scénarios conçus par les spin doctors de l'école de Chicago et leur gourou, le monétariste Milton Friedman. Adopté par le FMI, ils visent à plonger le pays en faillite dans un état de choc par une guerre, une grève générale, le terrorisme, un coup d'État, pour briser toute résistance des populations et leur imposer les réformes néolibérales les plus dures.
Voilà, le livre de Naomi Klein est plus connu sous le nom de « La stratégie du choc ». On détruit tout et ensuite on construit et on s'enrichit. Et c'est ainsi qu'on va voir la réponse de Boualem Sansal à ce cri d'espoir de Cyrulnik. Est-ce qu'il y a quand même le Irak, il y aura peut-être une résilience. Page 253.
Boualem Sansal. Alors avant, quel avenir peut avoir le Irak ?
Voilà.
Je pense que le système qui succédera à Bouteflika prendra une direction semblable à la sienne. Ce sera un mélange entre le capitalisme d'État à la Poutine et le capitalisme à la sud-coréenne avec d'immenses conglomérats familiaux opérant avec l'appui de l'administration. Je crois qu'il ne faut pas prêter trop de poids au Irak. Il est un long cri dans le désert que le pouvoir a refusé d'entendre jusque-là et que les amis et partenaires de l'Algérie officielle s'efforcent eux aussi de ne pas entendre. Avoir de la sympathie pour notre gentil Irak et sa belle Silmiya, la non-violence à la Gandhi, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Les irakistes attendent un soutien politique concret, une dénonciation claire de la junte militaire. Comparaison n'est pas raison. Mais on ne peut pas ne pas mettre en vis-à-vis le printemps algérien de 1988 et celui de 2019. Force est de constater, sur le plan des résultats concrets, que le premier printemps a, en moins de 10 jours de manifestations interrompues, produit bien plus que le printemps en cours. Il a forcé le pouvoir à mettre en place par référendum une nouvelle constitution qui a consacré la fin du parti unique et du système socialiste, instaurer le multipartisme, l'économie de marché et les libertés fondamentales, y compris la liberté de conscience. Il a produit une réforme en profondeur de l'économie et une véritable ouverture sur le monde extérieur. Mais on le sait, ces libertés ont profité surtout aux oligarques du système et aux islamistes. Le peuple n'en a tiré aucun profit. Lui qui n'a trouvé d'autre solution que de se soumettre aux uns et aux autres ou de se jeter dans l'émigration qu'on appelle aujourd'hui « harga », du verbe arabe « brûler ». Ceux qui fuient le pays sont les haragas qui, une fois partis, brûlent symboliquement leurs papiers.
Haragas, le nom d'une émission sur Radio Bel Air.
Après plusieurs mois de manifestations massives, le Irak n'a encore rien produit. On peut même dire qu'il a renforcé le système qui a trouvé là l'occasion de mettre fin au pouvoir que le camp Bouteflika lui avait petit à petit soustrait en 20 ans de règne, fait d'intrigues et de corruption, de se débarrasser de ses branches mortes et se recentrer sur son cœur, l'armée, ou plus précisément le clan des généraux de l'armée et des services secrets.
Voilà comment il voit les choses. Le mouvement de 88, on a beaucoup entendu dire c'est les islamistes, mais il nous donne là un éclairage bien particulier et sur le fonctionnement du pouvoir et ce qu'il appelle le centre du pouvoir dans lequel ils se sont recentrés. Il n'a certainement pas tort. Il ne faudrait pas vous laisser là-dessus. Et il nous dit aussi, page 256, c'est pas loin, ce qu'il faudrait, voilà, comme ça.
Pour éviter le chaos, après la chute du régime, comme ce fut le cas en Libye et en Irak, il importe que les manifestants dépassent le service minimum et accentuent leur pression sur le pouvoir, qu'ils s'organisent et se donnent des leaders pour assurer la relève à la chute du régime. Certaines figures ont commencé à émerger, tels Fodil Boumala, Karim Tabou, Samir Belarbi, Rachid Nekaz, etc. La police politique les a évidemment repérés très tôt et depuis l'été 2019, certains sont toujours en prison. Si les irakistes ne s'organisent pas parce qu'ils n'y parviennent pas ou ne le veulent pas, par peur d'être récupérés par le pouvoir, il arrivera au Irak ce qui est arrivé dans les années 60, au vaste mouvement des étudiants américains, les Students for a Democratic Society, contre la guerre au Vietnam et contre le complexe militaro-industriel déjà dénoncé par Eisenhower. Après des mois et des mois de manifestations qui ont gagné la planète, il a fini par disparaître sans affaiblir le complexe militaro-industriel qu'il dénonçait comme la source de tous les maux du monde. C'est également ce qui est arrivé au mouvement de mai 68 en France, qui dénonçait le capitalisme, la société de consommation et l'absurde métro-boulot-dodo, qui gâchait la vie de millions de travailleurs des banlieues. À part les accords de Grenelle, qui ont apporté une augmentation très substantielle du SMIC, qu'ont-ils obtenu sur le fond et qu'en reste-t-il aujourd'hui ?
Voilà comment il voit les choses. On voit qu'il n'est pas bien, il n'est pas bien optimiste. Il est bientôt l'heure de se quitter. Regarde, non, combien de temps il reste ?
Non, on a encore 15 minutes.
Ah, alors, je vais faire lire quelque chose que je ne t'avais pas fait lire, mais je regrettais. C'est la jeunesse algérienne, et c'est des contradictions de la troisième génération. Je t'ai mis un
petit marqueur dans le livre.
Voilà.
Allons-y.
Les contradictions des jeunes, c'est pour expliquer la radicalisation.
Les anthropologues avec qui je travaille expliquent ce phénomène qu'ils nomment le paradoxe de la deuxième génération.
C'est Cyril Nick qui parle.
Les pères ont été appelés en France pour y faire les travaux les plus difficiles. J'ai vu à Toulon les petits baraquements où ils étaient logés. Un camion venait les ramasser le matin et les ramenait le soir. Ils étaient très peu payés. Ils devaient régler un loyer et la nourriture qu'on leur apportait, et ils envoyaient tout le reste au bled, vivant ainsi dans une extrême pauvreté. Aucune possibilité de s'acculturer, d'apprendre la langue ou de sortir. Ils arrivaient à la retraite, épuisés, isolés, exploités par l'industrie du bâtiment et par leur propre famille, souvent du sud algérien. Quand une loi a autorisé leurs femmes à les rejoindre, elles ont été malheureuses de quitter le bled coloré et vivant. Les enfants qui sont nés en France ont donc dû se développer au contact de parents insécurisants. Les pères hébétés de travail, les mères rendues malheureuses par leur exil, ne pouvaient pas produire l'effet sécurisant de parents bien installés dans leur culture et dans leur âme. Les parents insécurisés sont devenus insécurisants pour leurs enfants. Ils n'ont pas pu leur donner confiance en eux, leur transmettre les valeurs de leur culture. Dès le début, ces enfants sont devenus des errants traînant dans la rue, allant peu à l'école, chapardant et se bagarrant sans conscience d'être en faute. Une telle absence de construction de leur personnalité en a fait des proies pour les gourous totalitaires, religieux ou idéologiques. Alors, quand survenait un moment heureux qui leur redonnait un peu l'estime d'eux-mêmes, parce que l'équipe de football d'Algérie avait gagné un match, ils exprimaient leur joie de manière agressive contre le pays d'accueil. Ils n'ont acquis qu'un faible sentiment d'appartenance à la France ou à l'Algérie. Maîtrisant mal le langage et n'ayant pas accès aux lieux d'expression culturelle et sociale, contrairement aux Algériens bien intégrés, ils explosent joyeusement, agressivement et bêtement un peu n'importe où, de préférence là où ça gêne les nantis.
Voilà, un trait d'humour et d'ironie plutôt à la fin de la part de Maurice Cyrulnik sur ces gens de la deuxième génération. Au moment de l'assassinat de Samuel Paty, eh bien, souvenons-nous de ce que peut être une intégration absolument pas réussie et impossible. Et on passe donc de l'Algérie à la France, parce que les Algériens français, ben, ils sont français et c'est de nous qu'on parle. Quand on parle de l'Algérie, de la difficulté à établir la démocratie. On voit une fois de plus là que le souci du Boualem Semzal, eh bien, c'est plutôt de savoir comment on fait une révolution. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une révolution ? Un journaliste américain disait, il faut une situation révolutionnaire, un parti révolutionnaire et une décision révolutionnaire. C'est très beau. Et on voit que Boualem Semzal a espéré que la révolution se ferait en Algérie. Il n'a pas arrêté d'avoir cet espoir. Mais pour le moment, les conditions sont on ne peut moins remplies.
Nous vous lisons maintenant quelques pages du livre France-Algérie de Boris Cyrulnik et Boualem Semzal, en revenant sur l'histoire de l'Algérie dans le chapitre « L'Algérie, une histoire complexe ». C'est Boris Cyrulnik qui parle d'abord. À t'écouter, on se dit que lorsqu'on veut comprendre l'histoire d'une nation, on doit faire face à un véritable bombardement d'informations pas toujours cohérentes. Pourrait-on dire que les frontières de l'Algérie actuelle sont le cadeau du colonialisme ? La plupart des Algériens le prendraient mal. Ils ne veulent pas avoir reçu aucun bénéfice du colonialisme, ce que l'on peut comprendre. Mais cette pensée radicale donne une représentation du passé abusivement claire. Le réel est toujours ambivalent et nous, êtres humains, sommes capables d'aimer et d'admirer ceux que nous agressons. Lors d'un cours que j'ai donné à l'université de Constantine, j'ai été charmée par la gentillesse de l'accueil, l'élan amical dégagé par les étudiants et les références au décret Crémieux qui donnait aux juifs algériens des avantages refusés aux musulmans. Quand j'ai dit à mes auditeurs que cette circulaire datait de 1870 et n'avait été acceptée que par une partie des 20 000 juifs algériens, j'ai provoqué un étonnement incrédule. Une injustice incontestable au détriment des musulmans était utilisée 150 ans plus tard pour faire passer la pilule de l'expulsion des juifs algériens en 1962. Le réel historique, toujours ambivalent, est éclairé par les mots d'aujourd'hui de façon à donner une vision claire, trop claire. Peut-on dire que pour comprendre l'histoire et la sociopolitique de l'Algérie, il est nécessaire de s'écarter de l'idée courante selon laquelle sa colonisation et son intégration physique à la France, durant plus d'un siècle, n'ont pas effacé l'empreinte tribale de longue existence des tribus, des clans et des gangs. Boualem Semzal. Bien au contraire, elles l'ont renforcé. D'une part parce que la France s'est appuyée sur les grandes tribus dûment rétribuées pour asseoir sa domination, et d'autre part parce que la guerre de libération a formé des élites politiques et militaires qui allaient au lendemain de l'indépendance se poser en baron du régime et exiger fiefs et chasses gardées en échange de leur soutien. Ainsi, l'esprit tribal qui irrigue la société traditionnelle a dans les coulisses de la République créé de nouvelles tribus, la tribu des anciens combattants et des ayants droit, la tribu très puissante des malgaches, les agents de renseignement dépendant du MALG, le ministère de l'armement et des liaisons générales du GPRA, durant la guerre de libération. la tribu des retraités de l'armée, celle des enfants des Chouada, martyrs morts au combat, celle des anciens condamnés à mort, etc. En Algérie, même les plus ignorants connaissent le clan dit de l'Est ou le clan du Bec de Canard, communément appelé BTS, en référence à ces trois villes de l'Est algérien, Batna, Tébessa et Souk Arras, qui ont donné au pouvoir maints présidents, ministres et généraux. Trois présidents de la République sur les six qu'a connu le pays depuis l'indépendance en sont issus. Boumédienne, Chadli, Zeroual. On parle aussi du clan dit de l'Ouest, ou clan d'Oujda, créé par les trois B, le triumvirat Boussouf, Bentobal, Belkacem, qui deviendra les deux B, Boumédienne et Bouteflika, et qui après 2000 se réduira à un B, Bouteflika, dont le règne mortifère finira enfin en 2019. Mais l'hydre n'est pas morte, elle se reproduit à travers ses héritiers et leurs affidés. Le Irak devra se montrer plus fort qu'Héraclès pour la terrasser définitivement. C'est cette organisation tribale clanique au pouvoir que les Algériens appellent le système, en arabe Issaba, le gang. Le reste est à écrire, pas forcément dans la continuité imposée par un régime inamovible. L'islamisation du Maghreb à partir du 7e siècle a ajouté une brique à l'architecture tribale avec les Aouyas, confréries religieuses, généralement d'obédience soufie, dont l'influence n'a cessé de se renforcer. Contre toute attente, car ces pays se sont considérablement modernisés avec la colonisation et surtout après l'indépendance, au point que cette institution politico-économico-religieuse impacte négativement la transition du pays vers la démocratie. Certes, les Aouyas se sont elles-mêmes modernisées, mais le fond reste archaïque et conservateur. La plupart d'entre elles, sinon toutes, ont une implantation internationale très discrète, au Maghreb et au-delà, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, ce qui les rend difficiles à contrôler au plan national. Leur pouvoir d'influence symbolique, religieux, politique, social, économique est considérable. Il existe une trentaine de confréries en Algérie, couvrant des aires géographiques plus ou moins importantes. La confrérie Tijaniya, née en Algérie au XVIIIe siècle, est aujourd'hui la plus puissante de l'Afrique de l'Ouest. Elle est implantée dans une trentaine de pays, au Maghreb, au Sahel, dans la péninsule arabique, au Soudan, en Égypte, en Syrie, en Indonésie, au Pakistan, en France, aux États-Unis. Les mouvements indépendantistes, tels le FLN en Algérie, les avaient combattus. Mais après l'indépendance, les gouvernements successifs ont vite découvert l'étendue de leur pouvoir et ont cherché aussitôt à les instrumentaliser pour contrôler les populations, contrecarrer les influences étrangères jugées subversives ou attentatoires à l'identité nationale. L'irruption de l'islamisme dans ces pays, les choix de développement économique calamiteux des gouvernements issus des indépendances ont aggravé les clivages traditionnels. L'ordre tribal et confrérique a réussi une belle jonction avec les nouvelles oligarchies civiles et militaires des républiques populaires. Ces données pèsent négativement sur l'organisation et le fonctionnement de l'État, pris en étau entre les impératifs de développement moderne et les réalités sociales. Cela explique que les pays maghrébins se sont tous donnés des constitutions boiteuses, dangereuses. On y trouve tout et son contraire, des éléments qui font de la citoyenneté moderne, jusqu'à la liberté de conscience, des éléments propres aux sociétés tribales archaïques et des éléments propres aux républiques théocratiques. Sur le plan linguistique, elles ont installé une schizophrénie furieuse. Elles ont fait de l'arabe classique, celui du Coran, la langue nationale officielle, alors que dans ces pays, on pratique l'arabe dialectal, un sabir tiré de l'arabe classique. Et le tamazig, le berbère, dans ses déclinaisons kabyles, chleu, targhi, chaoui, rifin. Aux frontières géographiques se sont ajoutées les frontières linguistiques. Cette balkanisation linguistique a paradoxalement favorisé l'expansion du français, hérité de la colonisation. Cela malgré les anathèmes des uns et des autres, car il permet la communication horizontale. En 1962, la population algérienne comptait 10 millions d'habitants, dont moins d'un demi-million de locuteurs en français, alors que l'Algérie de 2020, avec ses 42 millions d'habitants, en compte plus de 20 millions. et à un niveau élevé car le français est enseigné dès l'école primaire et reste la langue de l'administration centrale et de l'enseignement supérieur. De ce qui précède, il faut retenir deux données qui sont caractéristiques du Maghreb et de l'Algérie en particulier. L'esprit tribal qui imprègne tout, les mentalités et les institutions, et l'esprit de résistance à l'envahisseur et à toute influence étrangère, ce qui complique quelque peu les relations avec les autres pays. Si je remonte dans le temps, je m'interroge sur notre vision des chasseurs-cueilleurs des sites aquéléens du Maghreb il y a 200 000 ans. Est-elle correcte ? N'est-elle pas un peu restrictive ? Car enfin, ces très lointains ancêtres savaient aussi si merveilleusement croquer des animaux sur les parois de leurs grottes obscures. Des figures stylisées devant lesquelles des milliers d'années après, nous restons sans voix, émerveillés et jaloux de leur virtuosité. Les tribus nomades et sédentaires ont évidemment une histoire plus étoffée, mais c'est de l'histoire familiale. On peine à croire qu'elle pouvait être perçue par elles comme un chapitre de l'histoire du monde et de l'humanité.
Alors voilà une belle envolée. Hein. On remonte à 200 000 ans avant Jésus-Christ. C'est vraiment dans l'Algérie qu'on apprend là l'histoire de l'humanité. À retenir ces deux caractéristiques du peuple algérien qui dénotent, c'est le fait qu'ils sont restés nomades, esprit de clan. Et mais c'est pas, ils sont pas les seuls. Hein. À Marseille, on voit aussi les clans et les zones d'influence, avec les Corses d'un côté et les autres de l'autre. Et puis deuxième caractéristique, c'est ce goût de l'indépendance qui fait qu'ils ne supportent pas l'occupation et qu'ils ont été particulièrement courageux et violents pour se libérer de la présence française. Hein. Voilà, c'était le livre Boris Cyrulnik, Boualem Sabsal, France-Algérie, Résilience et Réconciliation en Méditerranée.
À la semaine prochaine.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Thank you. كوا